Bon d'avoir des frères et des sœurs sur lesquels on peut s'appuyer. On s'appuie sur le Seigneur avant tout, mais il est bon de pouvoir compter les uns sur les autres. Le titre de ce message que je voudrais vous apporter, relatif encore au témoignage, ce titre c'est « Je n'ai point honte ». Je n'ai point honte. Après avoir apporté la parole, il y a quelques mois de cela, donc au culte, une personne, je pense, qui était de passage, questionna Jean-Marc pour savoir qui j'étais. Bon. Et Jean-Marc de lui répondre, notamment, avec Jean-Louis, c'est la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Et comme j'étais pas loin, et moi d'ajouter, toujours la parole de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, est toujours la parole de Dieu. C'était un encouragement, mais c'était aussi un beau compliment de sa part. Je n'en demandais pas tant. Et aujourd'hui encore, mon message sera structuré à partir de la parole de Dieu et avec la parole de Dieu par de nombreuses citations de versets. Le message de ce matin portera sur les témoignages que nous avons à rendre à Jésus-Christ. Il est de notre responsabilité de porter à la connaissance du plus grand nombre la bonne nouvelle de l'Évangile. A-t-il besoin de le rappeler que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise de son esprit, que Jésus revient. Je m'appuie en cela sur les paroles de Jésus adressées aux disciples. Allez, faites des nations les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19 et 20. Cette parole est reprise par l'évangéliste Marc. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Notre champ d'action, donc, est vaste. Il n'est pas limité. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à partir au loin. Toutefois, en 2016, après cessation de notre activité professionnelle, nous sommes appelés à quitter Saint-Malo pour nous installer dans une région que nous connaissions peu, le Morbihan. Nous y avions, je l'ai déjà dit, des amis, des relations, une église, un certain confort, et disons-le, nos habitudes. Avant ce bouleversement, notre champ d'action, pour Agnès et moi-même, en tant que témoins, n'était-il pas Saint-Malo et nos familles? Comment nos entourages et nos familles connaîtront-ils la bonne nouvelle de l'Évangile si nous nous taisons? Alors, crainte d'être rabroué, crainte d'être moqué, mis de côté, je sais ce que je dis. Nous avons connu cela de manière violente douloureuse aux premiers instants de notre conversion. Et ce n'a pas été seulement pour quelques jours, mais pour peut-être une quinzaine d'années. Mais qu'importe. Nous sommes des témoins, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et nous ne nous tairons pas. Nous ne devons pas nous taire. C'est de notre responsabilité que de porter à la connaissance du plus grand nombre et de nos proches qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos corps. N'aie donc pas honte de rendre courageusement témoignage, disait Paul à Timothée. De nous dire encore dans Romains 1, verset 16, je ne sais pas si vous pouvez l'afficher, c'est peut-être difficile, comme ça, brûle pour point. Il disait, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Non mais vous entendez bien, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Monsieur Quinn traduit ce verset par « Je n'ai point à rougir de l'Évangile. N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent ?» Voilà ce que cet Évangile nous révèle. Dieu nous déclare juste si nous plaçons notre confiance en lui. Et il nous a été rappelé ce matin de lui faire confiance. Peut-être est-il bon de rappeler les paroles de Jésus qui n'a pas toujours que des paroles aimables. Lorsqu'il dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. » C'est fort, hein ? « Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, aura également honte de lui quand il viendra. » Waouh ! Jésus n'a pas que des paroles aimables, mais ses paroles nous sont salutaires. Alléluia ! Dois-je être alors tétanisé à la seule pensée de devoir témoigner ? Non, nous allons voir pourquoi. Il y a une promesse rattachée pour toutes celles et ceux qui ont à cœur de témoigner et s'y emploient. Vous la connaissez, cette promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes, chapitre 1, verset 8. Hébreux 2, verset 4. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui ont entendu son message, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il nous est dit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit, écoutez bien, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Alors, trois choses sont précisées ici, importantes, dont l'Esprit veut nous remplir. J'ai bien aimé ce qui a été dit, je crois que c'est Michel qui l'a souligné, que c'est une personne discrète que le Saint-Esprit. J'ajouterai, mais ô combien efficace, si nous voulons seulement nous attendre à lui. Donc trois affirmations, force, amour, sagesse. Dieu veut nous communiquer ces trois choses par l'Esprit dont il veut nous remplir. À la Pentecôte, ce n'est pas un filet de puissance, tout au plus une bonne rasade, mais une effusion de l'Esprit de Dieu communiquée à ceux qui étaient présents. Tous se mirent, nous est-il dit, à parler en de nouvelles langues. Ils furent tous remplis de l'Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Béni soit Dieu pour les parler en langue. Alléluia. Je ne peux que vous inviter à parler le plus souvent possible en langue. C'est quelque chose de merveilleux. Actes chapitre 2, verset 4. Baptisé dans le Saint-Esprit lors d'une retraite en août 72, ce même soir, où une vingtaine de personnes le furent, je le fus parmi la centaine de présents. Et pour moi, ce fut un jour merveilleux. Ce fut un jour merveilleux. J'aime le dire, je le redis, ce fut un jour merveilleux. Je puis attester que c'est une force, le Saint-Esprit, pour vivre sa foi et porter ce témoignage que le Seigneur attend de chacun de nous. Les timides se surprendront à témoigner. Les indécis deviendront décidés à le faire. Les craintifs n'auront plus peur. Les exclus auront du crédit. Ils parleront et seront entendus. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire dans la vie des enfants de Dieu. Alors, rempli de force, cette force est d'essence divine, d'où son efficacité. J'ajouterai que toute initiative dans le domaine du témoignage qui n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu est vouée à l'échec. Nos propres forces, écoutez bien, nos propres forces, notre capacité, c'est-à-dire nos dispositions naturelles à faire, à dire, à s'exprimer, ne peuvent donner le résultat escompté par Dieu, si Dieu n'est avec nous. Soyez bien conscients que le Saint-Esprit est avec nous. Cela nous a été rappelé. C'est de son assistance dont nous avons besoin. D'ailleurs, vous l'avez compris pour certains, il n'y a pas très longtemps, quand il a été demandé de venir devant, je crois, ou de se lever pour que l'on prie afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, ben oui, mais rien ne s'est passé depuis. C'est une démarche de foi que vous avez faite, si vous l'avez faite avec votre cœur, avec sincérité, c'est une démarche de foi que Dieu va honorer. Si rien ne s'est encore produit, persévérez. Et la promesse qui vous est faite va s'accomplir. Dieu honore les actes de foi de ses bien-aimés. Rempli de force. Dans Acte 2, il y a un récit magnifique où l'on voit Pierre, entouré des 11, s'adresser d'une voix forte à la foule pour dire « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée ou qui êtes de passage à Jérusalem, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. » C'était après la Pentecôte. « Certains d'entre vous insinuent que ces hommes-là seraient ivres. Vous n'y pensez pas. Il est à peine 9h du matin, non, mais vous assistez à l'accomplissement de la prophétie de Joël. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos aînés des songes. Oui, sur mes serviteurs et servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai apparaître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Et de lire un peu plus loin, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà une conséquence. Demander à être rempli du Saint-Esprit, de posséder l'un de ses dons. Et si vous balbutiez un peu, parlez en langue. Parlez en langue, c'est quelque chose qui libère. Pour l'avoir expérimenté, je le dis. La suite du récit, vous la connaissez. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, pardon, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Quelle puissance dans le message improvisé de Pierre, quelle force de persuasion et de synthèse de l'Évangile. Le chapitre 3 nous dit que Pierre et Jean, se rendant au temple pour prier, croisent le regard d'un homme boiteux de naissance. Il fait l'aumône. Une petite pièce, messieurs. À votre bon cœur, mesdames. Les Écritures de nous rapporter, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur cet homme et dit « Regarde-nous » et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses chevilles, ses pieds devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Force, entendez bien, force nous est communiquée par le Saint-Esprit de la part de Dieu pour accomplir des miracles, obtenir des guérisons, voire des délivrances. Sans aucun doute, Jésus est d'ailleurs formel, il n'a pas manqué de nous le préciser lorsqu'il dit que nous en accomplirons en plus grand nombre que lui. Mais ce n'est pas le plus important dans la pensée du Seigneur, qui, reprenant les directives confiées à Moïse, dira à un docteur de la loi, spécialiste dans les Écritures donc, et qui le questionne, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est pas facile à lire. Hein ? « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » La suite, vous la connaissez, ce docteur de la loi, cherchant à se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Luc 10, les versets 25 à 29. En une autre occasion, il nous rappellera que nous avons à nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Rempli d'amour. C'est ce que l'Esprit veut communiquer. L'amour de Dieu dont il a été question d'ailleurs tout à l'heure dans le don spirituel. L'amour de Dieu. Dieu veut nous remplir de son amour. D'ailleurs, quel constat avez-vous fait lorsque vous vous êtes converti dans les jours qui ont suivi votre conversion ? Si conversion authentique il y a eu, celui d'aimer toutes celles et ceux de votre entourage, qu'ils soient de votre parenté, qu'ils soient collègues de bureau, qu'ils soient voisins, commerçants, prestataires, étrangers, même ceux qui vous insupportaient, vous êtes pris à les aimer. Vous vous êtes pris à les aimer. C'est le constat que vous avez fait. L'amour de Christ venant d'être déposé dans vos cœurs, si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle création, créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La référence, vous la connaissez. 2 Corinthiens 5, 17. Que ce verset est magnifique. Il nous donne une idée de la puissance déployée par Dieu lors de la conversion. Il y a une personne dans l'entourage de mes parents qui était chrétienne, très discrète, à l'époque où je me suis converti, lorsqu'elle a appris que je m'étais converti, a dit « Le fils Guillon converti, ce n'est pas possible. » Eh bien si, si, ça a été possible, parce que le Seigneur a agi avec puissance, et j'ai pu ainsi devenir par lui une nouvelle créature, création. Je crois que guérir un malade demande à Dieu moins de puissance que de convertir un homme ou une femme à Jésus-Christ. L'objectif de Jésus n'est pas essentiellement de nous guérir de nos petits bobos, mais de nous acquérir un salut éternel, et il nous l'a acquis. Alors, si vous êtes malade, ne soyez pas choqués par mon propos. Si vous êtes malade, je comprends que pour vous, cela est important d'être guéri. Et n'hésitez pas à demander que l'on prie pour vous. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient. Cette quatrième vérité, on l'entend peu aujourd'hui dans les églises. Elle est pourtant bien réelle. Jésus est à la porte, Jésus revient. Mais l'acquisition du salut de nos âmes, comment cela est-il possible? Quelle était sa motivation à lui, fils de Dieu, de renoncer à la vie? L'amour de Dieu pour tous les hommes était également dans le cœur de Jésus, son fils. Dieu qui lui avait confié la mission de sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, vous le savez, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aimés de Dieu, nous le sommes. Aimés de Dieu, nous le sommes. Pas de réaction, il n'y a pas d'amen. Non, mais vous êtes aimés de Dieu. Il faut dire amen. Vous seriez dans la Pentecôte, enfin il y a une époque, hein, ça fusait les amen là. Hein. Ça fusait. Voilà une vérité digne d'être reçue. Dieu qui n'a pas hésité à faire le don de son Fils unique au monde. Mais il y a aussi l'offrande volontaire de ce Fils sur la croix qui n'a versé d'autre sang que le sien par amour pour chacun. Merci Michel aussi de nous avoir rappelé toutes ces semaines passées la valeur et l'efficacité du sang de Jésus. Comme tu l'as souligné, je crois, la dernière fois, une vérité pas forcément aujourd'hui mise en avant. Et pourtant c'est une réalité. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute souillure. Et ça, c'est une vérité capitale. Cette bonne nouvelle, nous n'avons pas à en rougir. Nous ne devons pas la garder pour nous, mais la partager avec le plus grand nombre. Donc la capacité à aimer notre prochain, ce n'est pas si difficile que cela, bien que ça le soit, parce que l'amour de Dieu nous a été communiqué par l'Esprit. Avec la force, l'amour nous est communiqué. Et maintenant, on va parler de la sagesse pour finir. Ça va, vous me suivez? Bon. Rempli de sagesse. La sagesse par l'observation, l'expérience, la réflexion permet de parvenir à connaître les hommes et Dieu. Ça, c'est être sage. La sagesse est l'expression du bon sens humain aussi, elle est aussi un don de Dieu. Si nous en manquons, demandons-la. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, et sans reproche. elle lui sera donnée. Je crois que quelqu'un dans sa prière, ça doit être Patricia, a parlé de « Dieu ne fait pas de reproches ». Si nous sommes sincères, si nous tenons devant lui, si nous demandons ce qui est nécessaire à notre croissance spirituelle, mais aussi pour notre bien-être, pour notre corps, pour divers besoins, si nous le faisons avec sincérité, il nous donne, et il donne la sagesse à qui il la lui demande, sans reproche. Alors n'hésitez pas, hein, demandons-la. Le livre des Proverbes propose un art de vivre, réflexion du roi Salomon et de deux autres penseurs, mais plus encore, ce livre propose un art de vivre selon Dieu. Lisez le livre des Proverbes. C'est peut-être un de mes livres préférés de toute la Bible, le livre des Proverbes. Il y a des choses magnifiques qui sont dites, c'est tout simple, c'est plein de bon sens. C'est la pensée de Dieu dont nous avons besoin. J'affectionne ce livre. Que dire de la sagesse selon Dieu ? Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique. Ensuite, elle est modérée. Ensuite, elle est conciliante. Puis, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Croyez-vous pas que le monde a bien besoin de cette sagesse-là ? Et je crois qu'il faut que l'on prie tous les jours pour que des hommes puissent être saisis par Dieu et remplis de la sagesse. En tout cas, il veut que nous soyons remplis de cette sagesse divine, de cette sagesse qui vient d'en haut, est-il mentionné. Elle n'a rien de comparable avec la sagesse humaine que nous pouvons manifester. Ésaïe ne nous met-il pas en garde ? Alors ça, j'en prends plein mon grade au passage. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans le ciel, entendez bien, l'on pense et l'on agit différemment que sur la terre des hommes. On pense et l'on agit différemment. Soyons toujours conscients de cela, que cela soit présent à notre esprit. L'on agit et l'on pense différemment dans le ciel. La sagesse implique la crainte de l'Éternel et l'obéissance à ses commandements, mais de ne pas avoir une trop haute opinion de soi. Waouh ! Ne pas avoir une trop haute opinion de soi. Par la grâce qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul d'en remettre une couche. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Je vous ai dit qu'il n'y avait pas toujours que des paroles aimables, hein, mais la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin d'entendre. Un autre mot, donc, apparaît le mot humilité. L'humilité, voilà qui nous conduira à être sages. Bien-aimés, soyez rassurés. Là, avec tous ces versets, je prêche à moi-même. Je ne pense à personne, je prêche à moi-même. Ces quelques derniers versets que j'ai regardés attentivement en préparant ce message, m'interpelle. Je conclus. Nous avons en nous la force, l'amour, la sagesse que le Saint-Esprit désire ardemment nous communiquer. aussi nous n'aurons point honte de témoigner. Dire ce que Jésus a fait, c'est cela, témoigner de nous, en nous. Partager notre ressenti d'être sauvé, aimé de Dieu, gardé, protégé, conseillé par son esprit, répandre, distribuer sa parole, semence de vie éternelle. Soyons forts de cette réalité et de cette pensée que j'ai voulu vous laisser ce matin, que de la part du Saint-Esprit nous ait communiqué la force, l'amour et la sagesse. Et nous nous surprendrons à témoigner et nous n'aurons pas honte de le faire. Dieu est avec nous, avons-nous entendu. Le Saint-Esprit, parakletos en grec, c'est littéralement celui qui vient bord à bord pour nous accompagner dans tous les instants de la vie. Alors, obéissons à l'ordre que Jésus nous donne de témoigner, puis vous assurez que c'est une source de joie et de bénédiction. Vous m'en reparlerez, mais tentez le coup. Hein. Faites-le, témoignez, dites ce que Jésus a fait, n'ayez point honte, prenez sur vous et vous viendrez me dire les joies que cela peut réserver quand une âme se tourne vers Dieu. Porte de l'intérêt à votre propos. Amen. Que Dieu bénisse cette parole et je le remercie de m'avoir soutenu, ce qui n'était pas évident. Mais le Seigneur a été là. Son esprit nous accompagne. Et j'ai eu du plaisir, frères et sœurs, à vous exhorter ce matin, en toute simplicité et en toute modestie, au nom de Jésus. Amen.